bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus 104.3 et l'émission L'Heure Flamande qui va commencer, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons consacrer donc cette émission à ce qu'on appelle le petit patrimoine et aussi en particulier de l'action d'une dame qui, grâce à son action, a pu sauver au moins plusieurs exemplaires de ce petit patrimoine. Il s'agit bien sûr de Monique Tenner-Vandal. Alors bien sûr, ce petit patrimoine, eh bien, qui souvent reçoit un certain mépris, il n'est pas pris en considération évidemment. On n'a de Dieu que pour les châteaux, les manoirs, les cathédrales et autres grands bâtiments. Or évidemment, il mérite toute notre attention et notre sauvegarde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que en France, on a créé donc ce fameux loto pour eh bien préserver ce riche patrimoine qui est un trait d'union entre les générations, bien sûr. Mais il y a aussi bien ce que l'on appelle le petit patrimoine, ce qui entoure notre vie quotidienne et en particulier ces maisons au toit de chaume, ces outils qui aujourd'hui nous intriguent. On peut se poser parfois en les voyant à quoi pouvaient-ils bien servir.
Ik weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, een huis met een put en een boom. Ik ken alle kamers van buiten, ik heb het gebouwd in mijn droom. Het ligt in het dal van de zuchten, de dieren die spreken een taal. De wind waait een lied door de luchten, de zon zingt een oud madrigaal. Weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, een huis met een bron en een stroom. Geen mens die het verhaal wil geloven, maar ik heb het gebouwd in mijn droom. Ik hoor er de stem van het water, het maakt alle gras donkergroen. Ik heb er geen zorgen voor later, elk jaar is een heel groot seizoen. Een oud huis in Nieuw-Zeeland, het staat onder wolken van room. Ik durf het aan niemand vertellen, maar ik heb het gebouwd in mijn droom. En worden mijn liedjes soms bitter, en zing ik met schampere mond. Dan droom ik mijn huis nog wat witter, en ik hoor weer het lied van de grond. Ik weet een oud huis in Nieuw-Zeeland, een huis als een klooster zo vroom. Ik prevel er oude gebeden, ik heb het gebouwd in mijn droom. Als 's avonds de doodsklokken luiden, en ben ik die doodsklokken moe, dan reik ik de zacht warme kruiden, dan moet ik er even naartoe. Dat huis is mijn laatste haven, dat huis is mijn tederste kroeg. Ik kan er mijn dorst altijd laven, er is altijd leeftocht genoeg. Ik heb er een vrouw en vier kinderen, en liefde en brood, wijn en kaas. Daar wonen ook mijn beste vrienden, maar twee zijn begraven helaas. Een oud huis in Nieuw-Zeeland uit 1710. Ik heb het gebouwd in mijn dromen, maar ik zou het eens echt willen zien.
Michel, Mill Coles, vous interprétez Outhouse in New Zealand, une vieille maison en Nouvelle-Zélande. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
104.3 et vous pouvez bien sûr écouter aussi l'émission sur le site internet www.radioplus.fr. Alors évidemment, donc on parle de, lors de cette émission de ce petit patrimoine qui est bien souvent un peu méprisé ou négligé en tout cas. Et pourtant, c'est très important de connaître ses racines. D'ailleurs, mon père disait toujours, sans de solides racines, ta plante ne poussera jamais bien, elle ne portera pas de bons fruits. Et donc, il est important de savoir tout simplement, grâce à l'étude de ce patrimoine qui est aussi le lien donc entre les générations, et de savoir tout simplement d'où l'on vient, quelles sont nos racines, quelles sont notre personnalité. Et c'est important d'ailleurs aussi de préserver toute cette richesse qui permet, quand on joue les touristes, tout simplement quand on va visiter des pays comme la Bretagne, l'Alsace et d'autres, bien d'autres pays. Eh bien, tout simplement, ne serait-ce qu'en regardant les constructions, on dit oui, on est bien en Alsace, on est bien en Bretagne, on est bien en Catalogne. Et donc, c'est pour ça que ça permet aussi de lutter contre cette uniformisation, ce qui dépersonnalise petit à petit notre région, notre pays. Il n'y a pas que le relief qui est important, nous en Flandre, nous sommes bien fiers de nos monts qui ne dépassent pourtant pas les 200 mètres d'altitude, mais qui font sourire bien sûr nos amis de Savoie. Mais ils font partie de notre décor, ils font partie de notre identité. Alors évidemment, par le passé, on parlera même sans remonter trop loin, les gens étaient peut-être moins attachés à cette transmission de patrimoine. Ils n'hésitaient pas des fois même à raser l'église pour en faire une plus grande, tout simplement pour répondre bien sûr à une augmentation de la population. Ce n'est que vers le milieu du 19e siècle que les choses se sont un peu accélérées, qu'on s'est aperçu et que il fallait bien sûr préserver nos monuments parce que ça faisait partie de notre personnalité et cette milieu du 19e siècle, il y a eu cette industrialisation qui s'est accélérée et notre région, qui était pourtant déjà riche par son agriculture et son commerce, a vu se dresser de très nombreuses cheminées, au point que, par exemple, la ville de Roubaix, on l'appelait la ville aux mille cheminées. Des chevalets aussi qui se sont construits avec l'exploitation de la mine. Le progrès technique a commencé à alléger bien sûr le lourd travail des ouvriers agricoles. La région était déjà très peuplée et c'est ainsi que évidemment les industriels ont vite trouvé des bras pour travailler dans les usines promettait alors des revenus plus élevés qui permettaient d'avoir une vie peut-être moins difficile qu'à la ferme. Alors, beaucoup d'industriels d'ailleurs ont fait construire des logements, ce sont les fameuses courées que l'on connaît, les corons, des ouvriers donc qui bien sûr quittaient leur petite chaumière pour retrouver un certain confort qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ainsi que petit à petit, les villages se sont vidés et ont laissé à l'abandon ces chaumières. Ces chaumières qui pourtant dataient pour certaines du 17e, du 16e siècle même, et qu'ils avaient traversé bien des guerres, des révoltes, et qu'ils avaient gardé bien sûr ce caractère si authentique de la région. Et puis la région, notre Flandre, devait connaître encore des périodes difficiles avec ces 4 années de guerre, de la Grande Guerre de 14-18, et qui a bien sûr anéanti bien des villes et des villages comme la ville de Bailleul. Alors ces populations ont fui, bien sûr, abandonnant cet habitat, et quand la paix est revenue, naturellement, on a cherché à reconstruire en plus moderne, en plus confortable, et ces chaumières, petit à petit, ont vraiment été abandonnées.
Au cœur de ma main grande ouverte, qui a-t-il une maison flamande sur un chemin d'avril? Au cœur
Maric, de son vrai nom Marie Scolache Rouzet, vous interprétez Une maison flamande, un texte d'André Levin, qui est un poète dunkerquois. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et donc nous consacrons donc aujourd'hui notre émission à ce petit patrimoine qui a été longtemps méprisé et qui est pourtant plein de richesses et plein d'intérêts, aussi bien pour l'histoire que pour notre identité, notre curiosité. Alors évidemment, pendant cette Première Guerre mondiale, malheureusement, beaucoup de nos villages, de nos villes, ont subi les dommages de guerre. Et par exemple, cette région de Flandre, qui était recouverte de centaines de moulins, et bien malheureusement, était souvent prise comme cible par les artilleurs, tout simplement parce que, et bien, ils pouvaient être des postes d'observation, alors que ça soit un camp ou l'autre, et bien évidemment, comme les tours d'église, bien souvent, et bien ils tiraient dessus pour bien sûr les détruire. Et après cette Première Guerre mondiale, eh bien, il y a eu une prise de conscience de certains intellectuels, de certains artistes face à la disparition de ces vieilles demeures. Déjà au XIXe siècle, il y avait une prise de conscience de cette perte de mémoire, de cette culture, un peu inspirée par le mouvement romantique. Et donc certains intellectuels de l'époque, eh bien, pour préserver et transmettre cette culture populaire, eh bien, ont cherché déjà à recueillir, comme ici en Flandre en particulier, avec un immense travail de Edmond de Coussemaker, en recueillant les chants traditionnels de Flandre, et qui servent d'ailleurs encore aujourd'hui d'inspiration à de nombreux groupes folkloriques. Mais cette fois, ce n'est pas le patrimoine immatériel qu'il s'agit de sauver, mais ce patrimoine fait de bois et de torchis. Et ainsi, par exemple, déjà à l'époque, un artiste de Flandre, Joseph de Zitter, auquel nous avons d'ailleurs consacré ici même une émission il y a déjà quelque temps, eh bien, se révolte, attire l'attention sur la nécessité d'essayer de sauvegarder certaines maisons dans son ouvrage « Les maisons rurales de notre Flandre ». Écoutons ce qu'il écrivait à l'époque.
« Nos maisons rurales disparaissent, frappées de vétusté, ou se transforme peu à peu sous l'influence d'autres besoins ou de possibilités nouvelles. Il m'a paru utile d'en fixer les caractères et d'en conserver le souvenir. Dans leur simplicité, elles me paraissent vénérables, ces demeures ancestrales, car elles sont profondément vraies. Construites avec les matériaux du pays, elles étaient adaptées au sol, au climat, et répondaient aux besoins de leurs constructeurs. Ces maisons sont le cadre dans lequel nos pères ont vécu. Elles ont été les témoins de leur joie et de leur douleur. Depuis plusieurs siècles, chaque génération a ajouté son effort au progrès. Nous les avons habitées en puissance, car elles ont été faites pour nous. Elles sont le patrimoine et l'expression matérielle de la pensée de nos pères.
Donc voilà ce que écrivait Joseph de Zitter. Donc nous étions dans les années 30. Est-ce pour autant que, eh bien, il fallait ossifier les choses, geler et figer ce pays en reconstruisant les choses que à l'identique, comme le passé, comme si on était resté au XVIIIe siècle? Pas du tout. Et d'ailleurs, Joseph de Zitter, qui était pourtant très attaché à ce patrimoine, eh bien, écrit toujours dans son ouvrage Les maisons rurales de Flandre, un texte, écoutons ici cet extrait.
Faut-il rebâtir ces chaumières? Certes non. Ce serait manquer à la tradition qui veut que chaque génération apporte sa part au progrès. Mais n'oublions pas que celui-ci ne consiste pas à faire autrement que nos devanciers, ni à faire plus vite, mais à faire mieux. Il est des règles immuables qui dépendent du sol et du climat et dont il faut tenir compte. Ne pas oublier que la maison est le prolongement de la personnalité et doit permettre le plein développement de l'habitant. Ne démolissons pas mal à propos les demeures de nos pères. Elles sont admirablement situées et peuvent, à peu de frais, abriter nos familles pendant les vacances. Alors, la petite maison rurale, sous sa mantille de chaume, comme une aïeule, parlera à nos petits-enfants de la beauté des fleurs, du gazouillis des oiseaux, des rayons vivifiants du soleil, et leur dira comment, dans un cadre modeste, nos pères ont connu la douceur de vivre.
Voilà, donc c'était pas, ils ne voulaient pas ossifier les choses, bien sûr, chacun apporte, eh bien, au fil du temps, des progrès, bien sûr, que l'on découvre, eh bien, naturellement, on améliore l'habitat, mais tout en gardant son caractère particulier, qui est aussi un des caractères de notre région, garder, bien sûr, son identité, tout simplement.
Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt.
André Van Duyn, vous interprétez Als de zon schijnt. Quand le soleil brille, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous évoquons donc aujourd'hui ce petit patrimoine, les chaumières, les petites chapelles, etc. Et donc, eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, l'Europe sort de 5 ans de guerre totalement meurtrie. Un vaste chantier s'ouvre devant elle. Il s'agit de, bien sûr, de reloger tous ces réfugiés. Dunkerque, je rappelle, a été détruit à plus de 85%, comme bien d'autres villes. Et donc, en attendant, eh bien, on installe des baraquements sur la place Jean-Bart, par exemple, pour permettre aux Dunkerquois de revenir dans leur cité. On se met à construire des tours, des longues barres. On met, bien sûr, tous ces nouveaux logements en type confort à l'américaine. On abandonne, bien sûr, la table en bois pour le formica. On quitte sa petite maison sans chauffage central, sans eau courante parfois, pour eh bien, tout simplement se loger dans des appartements. Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, on voit ces maisons dans campagne au bord de nos villages dépérir, tomber en ruine. Et il n'est pas rare de voir, bien sûr, la végétation reprendre ses droits. Et je me souviens de cette petite maison non loin de Berg où un arbre avait même fini par pousser à l'intérieur de la maison et percer la toiture, tout simplement. Alors bien sûr, les fermiers eux-mêmes eh bien, possédaient des engins de plus en plus grands, de plus en plus gros, et les hangars qui passaient, évidemment, ils devenaient un peu trop petits pour accueillir ce nouveau matériel. Il y avait aussi le regroupement des terres qui permettait bien sûr d'avoir des récoltes beaucoup plus importantes, et donc évidemment les granges étaient devenues beaucoup trop petites pour stocker toute cette récolte. Alors ces vieilles granges sont tout simplement abandonnées, voire d'un coup de bulldozer détruites. Alors plusieurs personnes bien sûr s'attristent de voir cet habitat si caractéristique tomber en ruine, mais certaines personnes ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Il s'agit donc de sauver ce patrimoine, mais comment faire ?
Oh, ik beloof dat ik zing als er weer een dag begint. Ik wek je en je rolt mijn armen in. Dan zeg jij, het is tijd en het dromen is voorbij. We komen uit ons bed met tegenzin. Alsjeblieft, wij zijn eeuwige dromers en voor altijd verliefd. Nee, ik ben geen Don Juan, ben een doodgewone man die geniet van jou op elk moment. Geen fortuin, geen paleis, maar met jou hier dicht bij mij ben ik zoveel rijker dan ik denk. Dans met mij, mijn lief, vergeet niet alsjeblieft, wij zijn
Sommers, Fierer Dromers, Rêveurs Éternels, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et nous consacrons donc ce numéro à la préservation donc de ce petit patrimoine qui mérite toute notre attention et du travail d'associations et de beaucoup de bénévoles. C'est ainsi que dans les années 70, eh bien, il y a une réelle prise de conscience face eh bien, à la disparition de ce patrimoine qui fait bien sûr notre identité, notre en quelque sorte personnalité à travers les régions d'Europe. Et c'est ainsi que eh bien, déjà une association, l'association régionale des Amis des Moulins, animée par Jean Brugman, qui donc cette association qui a été créée en 73, eh bien lance une grande opération de sauvegarde des fameux moulins qui étaient si nombreux dans notre région. Et donc, il s'agit de, bien sûr, de préserver, de restaurer ce qui reste encore. Et c'est ainsi que le premier moulin qui a été sauvé, c'est un moulin qui se situait à l'époque à Arnec, petit village entre Berg et Cassel, et qui a été donc démonté et remonté à Villeneuve-d'Ascq. Mais nous reviendrons sur ce sujet de la sauvegarde des moulins de Flandre, car en effet, cela mérite bien une émission entière. Alors nous allons ici nous intéresser à une autre association qui a fait un travail formidable. C'est l'association du musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq qui, lui, a été créée dans les années 80 avec comme fondatrice Monique Teneur Vandal. Cette dame au caractère tenace et volontaire avait travaillé au départ au conseil départemental du tourisme, elle l'a quitté, et créé donc cette association. Alors évidemment, devant l'ampleur de la tâche, elle toute seule ne pouvait pas bien sûr faire grand-chose comme on peut l'imaginer. Aussi, elle a fait jouer son réseau. Elle a travaillé en particulier avec le club Gagnant, c'est un club d'entrepreneurs de notre région, avec en particulier Bruno Bonduel par exemple, Doublé, les fameux drapeaux, les Muliers, etc. Et donc bien sûr, parce qu'il fallait de l'argent, il fallait des sponsors pour faire ce qu'elle avait prévu de faire. Il fallait aussi une logistique importante, et d'ailleurs elle ne va pas hésiter à se faire réussir à se faire aider dans ce travail de démontage de chaumières grâce au 43e régiment d'infanterie. Et puis elle va aussi tout simplement donner une impulsion sociale, puisque grâce au travail immense, démontage, remontage de ces chaumières, eh bien c'est faire travailler des associations, faire travailler pour donner des formations à des jeunes aussi dans le cadre de réinsertion. Donc voilà un projet absolument formidable qui mérite bien sûr d'être salué ici. Et aujourd'hui, eh bien on peut voir le résultat quand on va voir ce musée du plein air à Villeneuve-d'Ascq. Alors ce patrimoine régional, donc, qui était riche d'une multitude de trésors, était bien sûr ignoré par la plupart, méprisé même, et donc menacé tout simplement de disparition purement et simplement. Or, pourtant, eh bien, ce patrimoine, c'est le trait d'union donc de tout simplement de générations, et donc il faut simplement le respecter. Alors ce vaste chantier, eh bien évidemment, va permettre de sauvegarder des chaumières qui étaient vouées à la démolition purement et simplement, et aussi va permettre eh bien de faire renaître des vieux métiers, parce que évidemment ces maisons qui avaient été construites au 16e, 17e, 18e siècle avaient bien sûr des méthodes. Et donc c'est ainsi que par exemple il fallait redécouvrir le métier de la technique du torchis, mais aussi du chaume. Et ici eh bien nous allons écouter donc un extrait de ce livre qui est consacré donc au musée du plein air de Villeneuve-d'Ascq, le chaumier.
Des enquêtes ethnologiques réalisées en 1989 ont permis de rencontrer à la crèche près de Bailleul Lucien Coichebeur, chaumier et fils de chaumier. Il est intéressant de transcrire ce qu'il expliquait à ce sujet. Pendant que mon père préparait les lattes à panne, je nettoyais la paille afin d'enlever les mauvaises herbes et les brins trop courts. Pour ce faire, je prenais une botte de paille dans les mains et je la passais entre les dents d'un râteau de bois que l'on faisait nous-mêmes avec du bois de sol. Ainsi, toutes les poussières et toutes les mauvaises herbes partaient et la paille était propre. Je liais chaque botte avec de la paille. Elles avaient à peu près 30 cm de diamètre. Après ce travail, je préparais les osiers qui serviraient à tenir les bottes sur les lattes. Cet osier poussait le long des petites rivières que nous appelons les becs. Il séjournait aussi dans l'eau de la mare, ce qui le rendait beaucoup plus souple pour le travailler. L'osier est inusable, 30 ans après, lorsqu'on répare un toit de chaume, l'osier est là, comme neuf. Le bout de l'osier était taillé en biais, afin de pouvoir le faire rentrer dans le chat de l'aiguille recourbée qui permet d'attacher les bottes aux lattes. En fait, il fallait deux grandes aiguilles que l'on enfonçait de chaque côté de la botte. On les croisait sous les lattes, on les ramenait par-dessus, on tournait alors l'osier et on le coupait. Il fallait toujours recommencer. Il fallait toujours commencer à droite de la toiture, sur les lattes du bas. Pour faire une toiture en chaume, il faut toujours être deux. On employait très peu de matériel, un petit chevalet de trois marches, quatre crochets et un sapin, qui est en fait un poteau de 20 cm de diamètre, qui était hissé en bas de la toiture et tenu aux lattes grâce au crochet. Le chevalet était posé sur ce sapin. On montait ce tronc de sapin au fur et à mesure que la toiture avançait. Le sapin servait un peu d'échafaudage. Les bottes de la première rangée étaient posées dans le sens contraire, c'est-à-dire que les épis étaient en haut. Pour la seconde rangée, les épis étaient placés en bas. Il fallait une botte tous les 20 cm. Après avoir appris à préparer les matériaux à 15-16 ans, j'ai travaillé avec mon père. J'ai commencé à lier les bottes de paille sur les lattes. C'est dur. Il faut un fameux coup de main pour croiser les grosses aiguilles et bien serrer l'osier sur la latte. Mon père était très exigeant. Tout devait être impeccable. Il ne fallait surtout pas qu'une tige ou deux dépasse d'une botte. Aujourd'hui, on ne saurait plus faire cela. Ensuite, je préparais le faîtage pour l'ouvrier, c'est-à-dire qu'on arrêtait de poser la paille à environ 20 cm du faîte de la charpente, et pour finir, on mettait des mottes de terre. Voilà, donc les premiers stages d'ailleurs de formation pour des chaumiers dans la région furent organisés sur le site du musée du plein air. Donc c'est un texte de Lucien Coichebeur.
Et donc notre ami François Van Hendrich, que j'ai eu encore hier au téléphone, eh bien m'expliquait justement son apprentissage de chaumier, justement sur ce chantier du musée du plein air à Vienfestas, qui confirme bien sûr la difficulté du travail et aussi l'exigence de Madame Teneur, qui bien sûr voulait un travail absolument parfait. Et donc c'est un travail difficile, mais néanmoins quand on voit le résultat, on peut que les applaudir. Alors évidemment, il y avait deux stratégies pour sauver ce patrimoine, à savoir soit c'était in situ, soit on démontait et on remontait sur un site bien particulier. Évidemment, préserver ces chaumières, ces hangars sur place, c'était compliqué. Les propriétaires, bien souvent, voulaient se débarrasser justement de ces vieilles maisons, de ces vieux hangars, tout simplement parce qu'ils voulaient reconstruire une maison plus moderne, plus grande. Et donc, pour eux, le plus simple, c'était de démonter, de se débarrasser de cela. Ne voulaient pas que l'on transforme un petit peu leur ferme en musée de plein air. Ils voulaient pas que avoir trop de visites, évidemment, ce qui est pour leur tranquillité, ce qui est bien compréhensible. Alors il a fallu mobiliser là encore des élus, des gens dans le pouvoir, que ceux qui peuvent décider bien sûr. Et il fut décidé de créer donc un site sur un terrain de la métropole lilloise, donc sur Villeneuve d'Ascq, donc un vaste terrain donc qui va recueillir une vingtaine de chaumières, de hangars, et reconstituer en quelque sorte un bel ensemble de témoignages de ces constructions passées, et qui vont nous permettre bien sûr de relier notre histoire à celle des générations précédentes. Alors évidemment, il fallait aussi trouver des bras pour démonter ces bâtiments. il fallait faire vite parce que évidemment l'agriculteur lui souvent il veut pas non plus, il veut sa tranquillité, ce qui est bien légitime, et il veut que le travail aille vite, donc il y avait une contrainte quand même technique assez importante. Puis d'autres, eh bien, tout simplement, ils disaient, oh, mais ces vieux bâtiments, moi, ils sont tout en bois, ça va me servir de boîte de chauffage. Donc il fallait réussir à convaincre naturellement les propriétaires, tout simplement à faire don, à vendre ces témoins du passé. Ça n'a pas toujours été facile, même si certains, bien sûr, faisaient purement et simplement don de ces bâtiments, parce qu'ils sentaient bien que c'était important de préserver cette identité, de transmettre aux générations futures ces témoins du passé.
The northern wind, white here and home. De noorderwind snijdt me door merg en been. En ik weet niet eens precies waarom, maar ik wou dat ik iets goed uit huilen kon. Als de wind de gure koud en kil, lege strand in het vale ochtendlicht lijkt zo doodvervelend stil. En ik loop hier wat verloren, ik weet niet goed meer wat ik wil. Maar de wind die laat zich horen, want een hevige storm is op til. Gierend om me heen. De noorderwind snijdt me door merg en been. En ik weet niet eens precies waarom, maar ik wou dat ik eens goed uithuilen kan. En gaan telkens weer als eb en vloed. Vreemd dat ik niet kan verklaren wat me zo weemoedig maakt. Als de wind begint te huilen en het schuim op het water ontwaakt, ontwaakt.
Norderwin, le vent du nord, chanté par Will Tura sur Radio Plus 104.3.
Et donc vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande, et aujourd'hui nous parlons de ce petit patrimoine, ce patrimoine dit mineur, et pourtant je sais combien il est important. D'ailleurs l'architecte égyptien Hassan Fathi, architecte des pauvres, qui a reçu d'ailleurs le prix alternatif Nobel en 1980, écrivait: La petite maison de paysan, c'est une adaptation délibérée des matériaux aux nécessités de la vie paysanne. Chaque détail est là parce qu'il est voulu de la forme à la taille la plus pratique, sans la moindre intention d'impressionner qui que ce soit. Le résultat est très impressionnant. La maison possède la tranquille assurance de n'importe quelle œuvre d'art de professionnel confirmé. Et c'est vrai que toutes ces chaumières, toutes ces vieilles bâtisses ont chacune leur personnalité. Ce fut d'ailleurs un gros challenge pour l'équipe de Monique Teneur que de, bien sûr, sélectionner, car il n'était pas question naturellement de sauver toutes ces chaumières, il y en avait beaucoup trop. Il s'agissait bien tout simplement, et bien encore une fois, de sélectionner, en espérant toutefois que certaines chaumières pourraient être préservées. Et c'est vrai que certaines associations ont su elles préserver des chaumières, et je pense en particulier à cette vieille chaumière d'Esquelbecq où avait vécu une de mes tantes, qui datait du XVIIIe siècle, qui se trouve donc rue de Pilgam à Esquelbecq, et qui a été sauvegardée par une association qui s'appelle Isarouk. Et donc là aussi, il y a ce travail de bénévoles qui peuvent préserver, bien sûr, ce patrimoine remarquable. Alors évidemment, donc, l'équipe de Madame Teneur a dû sélectionner pour essayer d'avoir sur ce même site un ensemble de bâtiments caractéristiques de notre région et ainsi pouvoir permettre tout simplement aux générations futures de découvrir tout simplement comment était l'habitation des temps passés. Et puis, il ne s'agissait pas simplement, bien sûr, de rebâtir ces maisons à l'identique, évidemment, mais aussi de reconstituer le décor dans lequel étaient installées ces maisons. C'est-à-dire, il fallait tout simplement recréer le jardin alimentaire, parce que, évidemment, les gens dans le passé étaient quand même pratiques, pragmatiques. Ils étaient, tout simplement, c'était des lieux de vie importants, donc ils avaient ce jardin alimentaire, mais ça n'interdisait pas d'avoir, bien sûr, un espace fleur. Il y avait aussi des arbres fruitiers. On peut aussi remarquer que les chemins qui traversent ces jardins sont curieusement recouverts d'un chemin de briques. C'est vrai que tout simplement en hiver, c'est que en Flandre la terre est gorgée d'eau et il s'agissait bien sûr de pouvoir accéder à son jardin sans bien sûr s'enfoncer. Et d'ailleurs, je me souviens que mon père, quand il travaillait dans son jardin en hiver, il s'était fabriqué des espèces de raquettes en planches de bois qui lui permettaient tout simplement de travailler sa terre malgré que cette terre était gorgée d'eau. Et puis il y a aussi tout simplement les animaux. Hein. C'est donc quand on va visiter ce musée de plein air, c'est vraiment un musée vivant puisque vous allez pouvoir découvrir une multitude de sortes d'animaux, des volatiles bien sûr, des races de cochons, des ânes qui vont ravir les enfants naturellement, mais aussi les grands. Et puis vous allez pouvoir donc découvrir plusieurs bâtiments. Il y a donc une vingtaine de bâtiments, en particulier par exemple l'Hofstede qui est du XVIIIe siècle, qui se trouvait donc à Bambeck. Bambeck est un village qui se situe entre Berg et Anscott. C'est le type même de la ferme flamande où les bâtiments ne sont pas reliés les uns aux autres, comme par exemple ces fermes à cour carrée. Mais au contraire, c'est des espaces ouverts. Une maison aussi de Bolezel caractéristique, qui elle aussi est du XVIIIe siècle, qui est en particulier remarquable par sa toiture en panne flamande, ces fameuses tuiles en forme de S qui permettent de mieux résister au vent en particulier. Les chaumières sont souvent bâties autour de la cheminée, c'est souvent la pièce maîtresse de la chaumière. Alors soit elle se trouve au centre de la chaumière, soit aux deux extrémités, et tout est bâti autour de ces cheminées. On peut aussi voir des ateliers comme une forge. Donc il y a des types de bâtiments que bien caractéristiques comme cette chaumière de Milam aussi, avec bien sûr un petit clin d'œil aux croyances populaires et aux légendes passées. Car en effet, la volonté de ce musée, c'est de le rendre vivant, et vous allez pouvoir y rencontrer des artisans, comme un bourrelier, comme aussi un atelier de fabrication de marionnettes, et d'ailleurs un petit théâtre de marionnettes qui vont ravir les enfants. Vous allez pouvoir aussi rencontrer d'autres ateliers, comme l'atelier de la forge. Bref, vous allez pouvoir passer une journée excellente. Et pour terminer même votre visite, eh bien, il y a l'estaminet qui se trouve dans une maison typique flamande qui se trouvait jadis à Zuypen qui est dans tout près de Cassel. Donc voilà, l'émission arrive déjà à sa fin et nous pouvons que vous inviter à aller découvrir donc ce musée. Et pour vous y rendre, eh bien, ça se trouve donc au 143 rue Colbert à Villeneuve-d'Ascq. Mais je vous invite bien sûr à les contacter pour bien tout simplement connaître les horaires d'ouverture. Alors vous avez un numéro de téléphone, donc le 06 21 00 26 85, 06 21 00 26 85. Voilà, et bien nous vous souhaitons donc une bonne visite au musée du plein air à Villeneuve-d'Ascq, et nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus.
Ik heb vandaag weer je stem gehoord. De telefoon schonk me ieder woord. Niet voorzichtig, niet gepland. Zo gewoon, zoals niemand kan.
Het lijkt of alles herbegint.
Weer mijn schuilplaats voor de wind.
Zo gewoon, maar dat is goed zo. Dat is goed zo.
En jouw naam zingt weer door mijn hoofd. En jouw naam zingt weer door mijn hoofd. Er was een tijd niet lang genoeg dat ik naar jou kwam, 's morgens vroeg. En je vasthield, en jij hield je vast aan mij.
Ik besef altijd jij en ik zo gewoon. Maar dat is goed zo, dat is goed zo.
En jouw naam zingt weer door mijn hoofd. En jouw naam zingt weer.